Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Vous en avez pris l'habitude l'an dernier et même en ce début d'année, plusieurs fois dans l'année, nous revenons sur la situation des chrétiens dans un pays hors de la France. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la Roumanie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Christian, curé de Saint-Exupère. Bonjour mon père.
Bonjour à vous.
Et vous êtes accompagné par Pierre Blanchard, qui est délégué de l'œuvre d'Orient en Haute-Garonne. Bonjour Pierre Blanchard.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Déjà la Roumanie, alors on sait que c'est à l'est de l'Europe, mais est-ce que vous pouvez un petit peu mieux nous la situer?
C'est beaucoup aussi dans l'Europe centrale, entourée par... au nord, actuellement, c'est l'Ukraine. À l'est, c'est la Moldavie, actuellement. Et puis au sud, c'est la Bulgarie. Et à l'est, c'est la Hongrie. En quelque sorte, c'est aussi un pays entouré par aussi un pays slave, tout en étant latin à la base.
Et en bordure de la mer Noire.
Et en bordure de la mer Noire.
Il y a aussi un peu de Serbie, en
également,
frontière.
Également.
Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de l'histoire? Parce qu'on sait que la Roumanie, c'est un pays qui est relativement neuf, hein, rentré dans l'Union Européenne en 2007. C'était presque hier. Hein.
Exactement, en 2007. L'unification de la Roumanie s'est faite déjà au début en 1600, mais d'une manière permanente en 1918. À la base, il y avait ce qu'on appelle les DAS, les Thraces également. Les Daces faisaient partie de ce peuple qu'on appelait les Thraces, et elle était colonisée par les Romains, notamment en 106 par l'empereur Trajan. Donc du coup, la Roumanie est devenue, ces Daces ont été colonisées et sont devenues un peuple latin. En latin, d'où le nom de Roumanie, Rome, provient du Rome. Et donc pendant plusieurs siècles, la Roumanie est imprégnée par la culture latine. D'ailleurs, même les noms chrétiens roumains, ça veut dire Creștin, Dieu, c'est Dominus Dei, le nom de base de la langue roumaine est de provenance latine, en grande partie. Et puis, il y a eu ensuite, après la colonisation romaine, il a eu des peuples migrateurs qui sont venus. Il a eu aussi les Slaves longtemps. Et puis, à partir du 3e siècle, les franciscains ainsi que les dominicains ont apparu en Roumanie. Ce qui fait que, par exemple, en 15e siècle, on a des gens bienheureux franciscains roumains qui va aller en Italie, à Naples, à Rome, à Naples et à Bari. C'est le bienheureux Jérémie Le Valache. Et puis, la réintégration avec le lien avec Rome s'est fait en 1000. On concorde que c'est 1700, mais 1698. En Transylvanie, le droit de Roumain n'était pas vraiment respecté. Il y avait le danger aussi du... Pas le danger, le peuple était en train de perdre son identité, et donc du coup, s'est fait le rattachement à Rome. On parle des églises, notamment on appelle l'église grecque-catholique. Mm-hmm. Il y a deux raisons, justement pour ce droit de la Roumanie, et puis cette unification est perçue également comme une réintégration de l'origine, de la formation, de sa formation latine. Et on arrive en 1918, il y a trois de 1700 à 1918, il y a les Grecs catholiques qui sont majoritaires en Transylvanie, qui commencent à devenir majoritaires. Et en 1918 a lieu la grande unification, lue par un évêque à l'époque, qui s'appelle Iuliu Hosu, qui est devenu en 1969 cardinal. Il était cardinal in pectore, fait par Paul VI, et on a divulgué ultérieurement qu'il a été nommé au consistoire de 73, qu'il a été nommé cardinal. Et d'ailleurs, les autorités de l'époque lui ont demandé de quitter le pays, mais lui, il a refusé. Il voulait rester avec le peuple roumain, notamment grec catholique, qui fut persécuté à l'époque par les communistes.
Quel est le régime politique en Roumanie ?
Actuellement ?
Actuellement, et même dans les années que vous venez de nous illustrer.
Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le communisme qui est venu et qui était jusqu'à la révolution de 89. Un communisme assez dur, notamment au début, ce qui a fait que beaucoup de... Mais on peut revenir ensuite aussi avec M. Pierre Blanchard. Beaucoup de intellectuels, des prêtres, des évêques ils sont morts en prison. D'ailleurs, le pape, lorsqu'il est venu en Roumanie en 2019, le pape François a béatifié cet évêque grec catholique. Et en 89, il a eu la révolution en décembre, qu'on appelle la révolution. Le régime de Ceausescu, il est tombé. Et donc, du coup, la Roumanie est redevenue une démocratie. Et à partir de 2017, on réintègre l'Union européenne.
Pierre Blanchard, est-ce que vous avez quelques petits éléments à compléter sur cette histoire récente mais riche, on peut le dire, de la Roumanie?
À partir de la chute du communisme, l'Église gréco-catholique a pu ressortir. Et quand on voit que l'actuel archevêque majeur, Monseigneur Murechan, que j'avais rencontré à Blage, a été ordonné sous le régime communiste, dans une cave d'un immeuble de 11 étages. Et que depuis son ordination jusqu'à la chute du régime communiste, il a été clandestin. Voilà un homme qui a quand même une histoire particulière, c'est que il a passé 3 ans dans une école militaire d'officiers d'aviation. Et puis à un moment, les autorités se sont rendus compte ou ont commencé à le suspecter d'être chrétien. Et donc, l'ont viré, si j'ose dire. Et il a été inquiété, il a été déplacé, il a été... Enfin, il n'était plus élève officier. Vous voyez. Il a été mis de côté, carrément.
Si on se replonge dans l'histoire récente de la Roumanie, 1948-1989, ça a été compliqué pour l'Église catholique de faire son trou. Père Christian, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période ?
Le 1er décembre 1948, l'Église gréco-catholique en soi, elle est interdite pour exercer son ministère, donc elle est tout simplement interdite. Et bien sûr, c'était la clandestinité, et c'était le prêtre, les intellectuels, les évêques, donc ont dû ou bien abandonner la foi catholique, ou bien aller en prison. Donc c'était très très compliqué. Cependant, il y a eu, dans cette clandestinité, il y a eu des ordinations, voire des ordinations épiscopales. La foi, elle était très puissante. Et d'ailleurs, en 89, quand la révolution est apparue, est advenue, toute cette église, elle est surgie de la terre d'une manière un peu comme une résurrection.
Comme si elle était cachée, elle attendait juste de s'élever.
Exactement.
Et comment vous expliquez justement que... cette église, au début, elle vivait dans la clandestinité dans les années 50.
Ils étaient, d'une part, parce qu'ils s'étaient interdits, et d'autre part, leur foi faisait partie de leur identité latine, et leur identité aussi en lien avec Rome. Et lorsque les évêques, par exemple, les évêques gréco-catholiques ont été prisonniers, on disait que vous pouvez nous emprisonner, vous pouvez nous foi. Vous pouvez nous tuer même. Notre foi, c'est notre vie. Donc,
sera toujours plus forte.
Ça sera toujours plus forte.
Et j'ai pu visiter la prison de Siguette, où ont été emprisonnés les évêques, mais des prêtres, Et ces évêques ont subi là-bas des choses inouïes, qu'on n'arrive pas à imaginer. Et ils ont pu résister par la foi. Mais par exemple, il y en a un qu'on a mis dans une pièce avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Donc il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas dormir. Je passe sur l'absence de toilette et tout ça. Et il a quand même réussi à tenir.
On est sur des vraies tortures.
Ah oui, oui, oui. Mais ça, ce n'est qu'un exemple.
Oui, j'imagine.
Et puis quand ils sont morts, ils ont été enterrés dans des lieux anonymes pour que les fidèles, même clandestins, ne puissent pas passer et prier pour eux. On ne sait pas où ils sont enterrés.
Et dans les années 50, alors ça on l'a bien compris, la foi catholique se vit dans la clandestinité, mais quelles sont les autres religions justement en Roumanie?
C'est la religion, c'est les orthodoxes qui sont majoritaires. Et, il y a aussi des protestants, des luthériens, par exemple, ainsi que des catholiques de rite latin, notamment en Moldavie, qui, eux, ils furent tolérés, mais les Grecs catholiques, non. Et sur le grec catholique, je rebondis, il y a un film qui est apparu récemment, qui est traduit aussi en français, qui s'appelle Le Cardinal. C'est sur le cardinal Jules Rousseau qui présente un peu cette période, ainsi que les persécutions.
Et vous nous parliez tout à l'heure de cette renaissance de l'Église gréco-catholique. Parlez-nous-en un peu plus. Dans les années... Quand est-ce que c'est arrivé déjà? Et ça a été un véritable élan? Une renaissance?
Ça a été un véritable élan, une renaissance. C'est apparu en 89 avec la chute. Et les célébrations étaient faites notamment à l'extérieur. À l'extérieur, j'étais petit, je me souviens, j'ai participé à plein de célébrations à l'extérieur, même l'hiver avec beaucoup de neige à côté. Et pourtant, il y avait une foi vivante, une vraie résurrection un peu partout, notamment en Transylvanie, puisque la Transylvanie était majoritairement gréco-catholique. Ainsi que petit à petit, il y a eu des écoles qui se sont construites, qui se sont mises en place. Il y a un peu toute la vie paroissiale et bien évidemment des églises qui ont été construites et qui sont même encore en train d'être construites.
Pierre Blanchard, justement, quel regard vous portez depuis 89 en fait sur cette renaissance de l'église gréco-catholique en Roumanie?
Ben c'est quand on visite la Roumanie et en particulier les paroisses, les écoles, il y a un dynamisme et il y a un optimisme et une foi, une espérance. Il faut reconstruire les églises, puisque 2000 églises ont été volées par le régime et n'ont pas été restituées. 650 sur 2000, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, la plupart des églises que nous avons visitées sont neuves et pas finies, pas terminées. Il manque l'iconostase dans certaines. Donc il y a l'armature. Moi j'ai vu des armatures d'iconostase qui devaient être remplies par des mosaïques, mais les premières c'était le Christ et Marie.
Eh oui.
Après il y aura les apôtres, il y aura, mais c'est les premières images, les icônes peut-être on dit, c'était le Christ et la Vierge Marie. C'est au cœur de la foi. C'est le plus important. Vous voyez?
Et pour vous, Père Christian, quel regard vous portez justement sur cette renaissance de cette église en Roumanie?
C'est un regard d'espérance. Un regard d'espérance. Et puisque le pape Jean-Paul II disait que on doit voir comme les deux poumons, le poumon oriental, l'église et le poumon, bien sûr, latin et oriental. Et donc, cette renaissance ne fait que compléter ce souffle qui est nécessaire pour l'église locale ainsi que pour l'église universelle.
Si on se réfère à aujourd'hui, en 2023, l'église roumaine, c'est, en termes de chiffres, c'est combien de fidèles?
La population, c'est environ 20 millions, la population par ensemble. L'église orthodoxe, elle est majoritaire, probablement 80%, elle est majoritaire. Et puis, les deux autres églises qui sont présentes, c'est l'église catholique latine, ainsi que l'église catholique orientale, byzantine, et puis ainsi que des protestants. Mais la majorité, c'est selon les orthodoxes.
On chiffre les fidèles de l'église gréco-catholique à 700 000, ce qui est important.
Oui.
Compte tenu des persécutions.
Les persécutions qu'il y a eu pendant de nombreuses années.
Oui.
Est-ce que ces églises, justement, toutes différentes, elles arrivent à cohabiter entre les orthodoxes, peut-être les luthériens qui sont encore présents, l'église gréco-catholique, comment ça cohabite tout ça?
Actuellement, il y a un progrès qui a été fait pour qu'il y ait une entente, qu'on regarde davantage le but, le Christ. Et donc, c'est un progrès important de cohabitation. Ce n'était pas toujours facile après la chute. Après, ça dépend du communisme. Après, ça dépend aussi des régions. Mais actuellement, c'est dans la voie de la communion, une pacification.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, ce sera la seule, et on revient dans quelques instants.
Car tu es saint, notre Dieu, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours.
Seigneur, sauve ton héritage.
Seigneur, sauve ton héritage.
À foi 100.2.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Christian, curé de Saint-Exupère, et Pierre Blanchard, délégué de l'œuvre d'Orient 31. Juste avant la pause musicale, dans la première partie de cette émission, on a parlé de la situation géographique, de l'histoire ancienne et récente de la Roumanie. Est-ce que justement vous pouvez nous parler de cette vie chrétienne en Roumanie, à commencer peut-être par votre témoignage. Comment vous avez découvert la foi? Est-ce que vous êtes né dans une famille catholique? Et justement, comment cette vocation de prêtre, elle est née chez vous?
Je suis né effectivement dans une famille catholique et je suis né à Sighet, le lieu où il y a eu les persécutions.
Donc c'est au nord de la Roumanie.
C'est au nord de la Roumanie, en Transylvanie, au nord de la Transylvanie. Mais mes parents, ils étaient grecs catholiques également. Et, Et puis je me souviens, le premier souvenir, c'était justement dans la classe de clandestinité. J'allais pas encore à l'école, j'étais tout petit. Donc on allait dans célébrer. Il y avait dans certaines maisons, il y avait la messe dans certaines maisons, un peu en clandestinité. Et puis dès qu'il a eu la liberté chrétienne, la liberté d'exercer la foi. On n'avait pas encore d'église, on continuait d'une manière officielle dans des maisons ou sur des places publiques. J'ai fait également le petit séminaire, actuellement n'existe pas ni en Roumanie, le petit séminaire à Cluj, une ville très francophone, la plus francophone de l'Europe de l'Est. Il y a plus de 7000 étudiants français, une ville très francophone et donc, j'ai fait le petit séminaire là-bas. J'ai intégré ensuite une année de deux séminaires, de grands séminaires, dans mon département de l'origine, donc à côté de Sighet, Maramureș, Baia Mare. Et puis, je suis arrivé en France. Je servais en France à 19 ans, ici, juste à côté, à Toulouse. À Toulouse, c'était par mon évêque qui m'a posé la question. Ainsi que les lazaristes, Lazaris, qui était présent en Roumanie depuis un certain temps. Et donc, finalement, j'ai fait toute ma formation à Toulouse. J'ai fait ma formation de manière intégrale. Et j'ai été ordonné prêtre en Roumanie, parce que j'ai quand même tenu le lien, j'ai gardé le lien avec l'église roumaine, grec-catholique. J'étais ordonné prêtre le 15 août 2010 et je suis revenu comme prêtre fidèle de nous, à Toulouse. Je suis reparti encore dans l'église, un petit peu dans l'église grec-catholique en Roumanie, et me voici à nouveau. Les cinq précédentes années, j'étais dans le secteur du Lauragais, Bazièges, Villefranche, Bazièges, Naïou, Montgiscard. Par là, et actuellement, depuis début septembre, je suis à Saint-Exupère.
Quelle différence, justement, vous voyez entre l'église de Toulouse, l'église de France et l'église roumaine?
Déjà, il y a une différence au niveau du rite. C'est le rite byzantin. Il y a les églises orientales ont cinq rites. Le rite alexandrin, c'est plutôt les Cobes, l'Égypte. Le rite antiochien, c'est les Maronites, Liban. Le rite arménien, le rite chaldéen et le rite byzantin, le cinquième, qui est le plus important. Le plus important est donc la foi et la manière d'exprimer la foi et l'oriental. Monsieur Pierre Blanchard a parlé de l'iconostase, ce mur d'icônes qui est si important, notamment pendant la divine liturgie. On passe dans le temps chronos et le temps kairos, le temps favorable, le temps de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle la divine liturgie. Et donc, déjà, il y a une grande différence au niveau de rite, de vivre la foi. Et puis, il y a aussi on parlait de renaissance, il y a beaucoup d'écoles. J'étais même en Roumanie aumônier des écoles, un peu aussi au séminaire, mais notamment aumônier des écoles. Et il y a une vraie vie, une grande pastorale très vivante. Et il y a même du scoutisme, il y a des missions qui se font. Il faut dire également que c'est encore un pays chrétien, mais c'est une vie que une foi vivante que même actuellement on vit en Roumanie.
Est-ce que elle est organisée de la même manière que l'Église de France, c'est-à-dire avec des prêtres, des vicaires, des évêques? Comment ça fonctionne?
Elle est organisée de cette manière, Donc il y a plusieurs évêques, il y a cinq diocèses byzantines, catholiques byzantines. Il y a même un cardinal, dont M. Pierre Blanchard a souligné, un cardinal qui a été fait par le pape, consacré par le pape Benoît XVI. Et puis, effectivement, une communauté, un prêtre, mais souvent, il y a un prêtre pour une toute petite communauté, pour peut-être 40 personnes, ça dépend de la paroisse, Donc, et c'est une communauté vivante avec un prêtre au milieu.
Et vous disiez, c'est une communauté qui est vivante. Comment vous l'expliquez justement, cette foi qui semble triomphante?
On l'explique par la manière de parler. Il y a toujours dans le langage la référence à Dieu. On l'explique aussi par la manière de vivre. On a toujours dans les projets d'avoir aussi un projet missionnaire. Et on l'explique dans la foi quotidienne, dans la foi quotidienne et l'éducation qui éduquer, ça veut dire enrichir, faire grandir et élever l'âme. Et cette renaissance des écoles, cette renaissance des écoles et des paroisses en fleurissement, c'est un signe de cette résurrection.
Mais c'est un signe très positif. Selon vous, quel est l'avenir de l'Église gréco-catholique en Roumanie? Est-ce qu'elle va se développer encore ou il y a certaines limites à ça?
C'est bon, probablement que ça peut se développer, ça va se développer. Ensuite, il faut bien sûr tenir compte l'Église gréco-catholique appartient à Rome. Bien qu'elle célèbre le rite byzantin, la foi catholique romaine. Donc, elle fait partie de cette de l'Église du Christ fondée à Rome, de l'Église catholique. Et donc, elle sera toujours une richesse pour mon byzantin oriental dont le pape Jean-Paul II faisait souvent écho, le poumon Orient, le poumon oriental et le poumon occidental. Le souffle converge dans ce sens.
Pierre Blanchard, je me tourne vers vous. Les auditeurs le savent, vous êtes délégué pour l'œuvre d'Orient. Qu'est-ce que vient faire l'œuvre d'Orient en Roumanie?
Ben déjà, rencontrer les paroisses, les écoles. Je témoigne que nous avons vu des paroisses vivantes, du scoutisme. J'ai pu même saluer, parce que j'ai été chef de groupe scout en France, et je les ai salués avec le salut scout. Et alors là, les visages
se sont éclairés.
On n'est plus seul, d'une certaine manière. Il y a ça qui vient. Et quand on voit des églises qui sont en construction, donc l'œuvre d'Orient aide au financement, aide au développement de des constructions et des paroisses et des écoles. Parce que c'est un tout. Le lieu, c'est important, mais c'est vrai que les fidèles s'en sont passés pendant des dizaines d'années,
Eh oui.
mais ça les rassemble. On peut venir librement dans une église. Et les écoles sont là aussi pour entretenir. Parce que l'ignorance est la mère de beaucoup de défauts. Alors que quand vous formez des jeunes et vous les formez bien et vous leur donnez une culture, un métier, c'est très important pour la suite. Et puis, nous avons rencontré des évêques. Des évêques, je vois cet évêque qui nous a fait visiter un orphelinat, et tous les enfants qui étaient là autour de lui, et lui avec un regard d'amour bienveillant. Je m'en souviens encore, mais je ne suis pas le seul à m'en souvenir, vous voyez. C'est très important. Et donc, que des chrétiens d'Occident, de l'Europe occidentale, aident et participent par des visites à cette vie de l'Église, c'est très touchant. Vous voyez, c'est très touchant. Et ça entretient aussi, bon, ils n'ont pas besoin de nous, mais en même temps, ça entretient l'espérance qu'ils ont déjà et la foi. Et je peux témoigner que le guide qui était avec nous, a découvert, parce qu'il n'en avait pas la notion, a découvert l'Église gréco-catholique et a pu s'entretenir avec l'archevêque majeur, Mgr Murechan, et il est sorti de là. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Ce témoignage était très important.
Père Christian, vous souleviez tout à l'heure qu'en 2019, le pape François était venu en Roumanie. Quelle symbolique pour l'Église gréco-catholique romaine de voir le pape venir jusqu'à chez vous.
C'était une reconnaissance et bien sûr historique, mais aussi spirituelle, notamment que il a béatifié sept évêques gréco-catholiques qui sont morts en prison pendant le communisme. Et puis, le pape il est venu à la rencontre aussi de ses fidèles orientaux. Et cette visite, d'ailleurs, elle a été beaucoup appréciée par l'ensemble du pays, également par les orthodoxes, par les officialités. Et c'était un signe fort de reconnaissance spirituelle et historique.
Pierre Blanchard, vous avez été en Roumanie. Quel message que vous souhaiteriez faire passer ?
Ben, ce que je souhaite, c'est que les chrétiens, les catholiques de France pensent, prient pour la Roumanie, prient pour ses fidèles, prient pour cette Église, et en même temps participent à l'aide qu'on peut apporter, qui vient aussi entretenir le développement et le développement de cette Église. Je voulais rappeler aussi, et le père Christian me l'avait dit, que la fête nationale avait été proclamée par un cardinal.
Ah.
Une fête nationale proclamée par un cardinal.
Tout à fait, le futur cardinal Uluhosu, évêque à l'époque, et en 1918, le 1er décembre, c'est la fête nationale de la Roumanie, effectivement. Mmh.
C'est symbolique, ça, qu'un cardinal célèbre une fête pour tous les croyants en Roumanie.
Exactement.
Oui, c'est très différent de ce qui s'est passé en France.
Ah, ça, c'est sûr.
Oui. Oui, donc, si... pour les auditeurs, vous pouvez aller sur œuvre-orient, qui est l'œuvre d'Orient. Donc, c'est le site de l'œuvre d'Orient, qui depuis 165 ans aide les chrétiens d'Orient. Donc il y a quand même une antériorité. Et je ne vous donnerai pas de projet particulier à aider, mais si vous envoyez des dons pour la Roumanie, le code c'est
Z15. Z15 sur le site de l'œuvre d'Orient pour soutenir.
C'est ça. Et pour
tous les projets, que ce soit école ou église en Roumanie.
École, église, construction d'église, soutien à l'épiscopat, financement.
Il y a beaucoup d'œuvres en tout cas à aider. Oui. Père Christian, qu'est-ce que les Roumains de gréco-catholiques de France ont à apporter aux catholiques français ?
Les Roumains gréco-catholiques finalement, on se plonge dans cette même foi. Notre foi christique, notre foi trinitaire. Et le courage, mais moi je dirais également que la Renaissance, qui est aussi pour l'Église gréco-catholique, elle sera aussi pour l'ensemble de l'Église. Il y a cette foi germe et à un moment donné, ça va se reprendre. Ça va se reprendre et donc avec plein de confiance, on peut regarder l'avenir de deux côtés, je dirais, sans aucune hésitation, côté catholique oriental, mais aussi catholique occidental.
Ça vous manque pas trop, justement, la Roumanie ?
J'ai été beaucoup formé à Toulouse, totalement de certaines, beaucoup. Et puis comme famille, j'ai deux sœurs, une sœur qui est en Roumanie, qui est mariée. J'ai deux nièces, Bernadette et Rita, de symbolique de sainte. Ça rappelle de Sainte, et une sœur qui est en Belgique et dont j'ai baptisé, j'ai eu la joie de baptiser mon neveu Lucas. Donc, bien sûr, j'ai encore de liens avec la Roumanie, mais j'étais beaucoup formé et j'ai beaucoup vécu en France avant.
Donc, la France et Toulouse, c'est votre deuxième maison.
Égal, tout à fait, tout à fait.
Pierre Blanchard, pour clôturer cette émission, est-ce que vous auriez un message à faire passer? Pourquoi, par exemple, dire aux auditeurs, pourquoi c'est important de spécifiquement aider l'Église roumaine, même si toutes les causes de l'œuvre d'Orient sont au même niveau?
Parce que c'est un germe dans le pays, c'est un germe de développement de la foi qui peut révolutionner la politique locale et la vie des gens.
Ah oui.
C'est très important, c'est un germe.
L'enjeu est énorme.
Oui, aller enseigner les nations et de tous les peuples faites des disciples. C'est notre mission, c'est la mission de l'Église. Donc c'est très très important.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup Père Christian.
Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir accepté de nous témoigner de cette foi missionnaire qui est en train de germer en Roumanie, qui est important de porter à la connaissance de tous nos auditeurs. Merci beaucoup Pierre Blanchard. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com pour faire un don à l'œuvre d'Orient, œuvre-orient.fr, et le code pour la Roumanie, c'est le Z15. Merci de votre écoute et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou par mail à contact@radioprésence.com.